Imaginaire, science-fiction et utopie féministe.
Tout un programme. 3 heures de direct mijotées par Radio Rageuse.
Une nébuleuse d'émissions de meuf, gwyn, trans et féministe.
Samedi 20 juin de 18h à 21h sur Radio Zinzine 100.7.
Partout en streaming sur radiozinzine.org.
Et bientôt sur radiorageuse.net.
Nos expertes radiologues sont formelles.
La nébuleuse radiorageuse
est en pleine phase de rematérialisation en ce mois de juin 2015.
La piste est dégagée. Les conditions sont optimales pour l'atterrissage.
Toutes les communautés rageuses,
elfiques,
mutantes,
sorcières,
cyborgs,
créatures extraterrestres, cyberpunk,
ont déjà répondu à l'appel lancé via les ondes radiophoniques hertziennes et numériques.
Profitons de la faille spatio-temporelle que nous offre le solstice.
Profitons de la faille spatio-temporelle que nous offre le solstice pour laisser nos imaginaires courir dans les champs hertziens à la faveur des nuits étoilées.
Fabriquons et diffusons nos utopies.
Nous allons être ensemble de 18h à minuit sur Radio Zinzine 100.7 FM pour vous présenter notre univers, nos réflexions, nos rêves et qui compose le réseau Radio Rageuse.
Pour rentrer dans la thématique de cette année, imaginaire, utopie et science-fiction féministe, nous allons commencer par parler des héroïnes, celles que nous avons découvertes dans des livres ou au cinéma, ou dans des luttes, et qui ont nourri nos imaginaires et qui nous donnent de la force.
De 19h à 20h, nous serons en direct du village des Magnans, où se déroulent les rencontres, pour présenter les différents collectifs qui participent au réseau.
Et de 20h à 21h, nous rencontrerons le collectif Agathe, Armoise et Salamandre et nous aborderons les questions qui se posent autour de l'écriture, d'histoire, de science-fiction ou d'anticipation politique.
À partir de 21h, nous vous avons concocté une playlist intergalactique pour danser et triper jusqu'à minuit.
Alors, pour commencer cette soirée pleine de choses trop chouettes, on va commencer donc par cette question des héroïnes et ce qui fabrique nos imaginaires et nos utopies, avec Tina, Michel et tout un tas de copines, camarades du réseau Radio Rageuse qui sont là pour participer à ce plateau radiophonique.
Salut.
Bonsoir salut. Tout le monde.
Salut. Bah du coup, en fait, on voulait parler des héroïnes quand on a entendu parler de ce thème utopie imaginaire et science-fiction féministe. Pourquoi ? Parce qu'elles font partie de notre construction, donc de nos imaginaires, et donc ça nous a bien motivés. Et puis il y avait aussi des copines qui avaient fait des émissions à ce sujet, Langue de Fronde à Paris, entre autres, et Voyelle à Toulouse. Et Langue de Fronde, du coup, a fait une chanson, deux meufs de Langue de Fronde, sur les super héroïnes.
On est des héroïnes, on est des
autant qu'il faut. Avec mon ami Buffy, on dégomme les vampires. Au début, j'étais perdue aux côtés de l'élu. Maintenant, je suis une super magicienne. Et en plus, je suis lesbienne.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Zinzine 100.7 en direct de Radio Rageuse, la nébuleuse féministe dans Fort-Calquier. C'est ça.
Et du coup là, la première partie, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est une partie sur les super-héroïnes. Et du coup, comme on a une heure, on s'est dit qu'on allait diviser un peu l'heure. On va d'abord parler un peu du côté fictionnel, du coup dans des films, des séries et tout. Après, dans des livres, on va faire des lectures. Et après, on va quand même parler aussi des héroïnes réelles qui nous inspirent dans nos vies.
Et du coup, en fait, depuis quelques jours, au gré des conversations, on remarque qu'on entend des choses comme le fait qu'on regarde les unes les autres de plus en plus de films et de séries dans lesquels les femmes, elles sortent de rôles passifs, de rôles de victimes, de rôles secondaires où, en fait, elles sont sauvées par des hommes. Et ça, c'est un truc que j'entendais, que j'ai entendu dans une émission donc, de Voyelles qui parlait de science-fiction. Et du coup, voilà, on voulait demander, Raph, si tu pouvais nous parler un peu de comment ça s'était passé, cette émission, pourquoi d'accord, vous aviez d'accord. eu envie
du
de
Du coup,
la...
je comprends mieux la question et pourquoi vous aviez envie de ça. Ça vous a inspiré, c'est ça que tu
voulais Exactement.
Dire. C'est super. Ça fait très plaisir. En tout cas, nous, c'est une émission qui nous a vachement... comment dire? Je crois, peut-être pas soudés en tant que groupe, mais on l'a fait vraiment très collectivement, et notamment parce que la science-fiction, ça nous a inspiré beaucoup de créations. Et on est vraiment parti sur beaucoup de montages sonores à partir de plusieurs textes, que ce soit des lectures d'écrivaines de SF, de SF féministes, de la SF de vampires trans. Voilà, on a trouvé un tas de textes qui nous ont bien branchés, qu'on avait envie de lire et de partager. Et aussi, il y a une lune d'entre nous qui a monté du coup cet énorme montage que moi je trouve quand même très impressionnant, avec tout un tas de... qui parle de tout un tas de films qui sont assez classiques. Du coup, ça va de Batman, Jurassic Park, Tank Girl, bon, qui est moins connu, ça va jusque-là. Mais en tout cas... pour analyser la position effectivement des femmes, qu'elles soient héroïnes ou alors personnages secondaires ou encore méchantes, les ennemis quoi. Et du coup, effectivement, enfin, ce qui est ressorti, c'était quand même que les rôles étaient toujours assez sclérosés en fait, avec très peu de marge pour les meufs en fait d'être autre chose que ce qu'on attendait. Et en tout cas, c'était vraiment les méchantes qui avaient les rôles finalement les plus intéressants. Ou alors, ou le personnage de Catwoman, qui est un peu un personnage ambigu, où on ne sait pas trop si elle est méchante ou gentille, ou si elle a juste pas de morale du tout, en fait. Et du coup, qui étaient effectivement ceux qui nous faisaient le plus rêver. Voilà, mais moi, j'encouragerais plutôt les gens à l'écouter, parce que je l'ai beaucoup aimé, ce montage. Je le trouve très beau aussi.
Et juste une petite question.
Et comment on fait pour l'écouter, votre émission ?
Oui, tout à fait. Alors, on l'écoute, puisqu'elle est en ligne, sur le site radiorageuse.net. Et dans la catégorie voyelle ou la catégorie science-fiction. Fiction, je ne sais plus les catégories là tout de suite.
Et du coup, peut-être on peut enchaîner pour parler des... parce que concrètement, tout l'imaginaire, les héroïnes ou pas, ça nous inspire dans toute notre vie. Mais peut-être que tout ça commence...
Très tôt.
Très tôt, n'est-ce pas?
Ouais, moi, tout à l'heure, quand ça s'est posé la question de est-ce que vous voulez venir parler de vos héroïnes, et bien en fait, c'est que des héroïnes un peu de mon enfance qui me sont venues. Et ben, en fait, j'avais envie du coup de parler des héroïnes un peu de mon enfance. Parce que je trouve que peut-être plus tard dans la vie, on peut plus chercher un peu, aller trouver ce qu'on veut. Et que dans l'enfance, on a moins cette autonomie-là, peut-être pour voilà, aller chercher des personnes qui nous inspirent. Et du coup, ben, moi, je voulais parler d'un livre qui est Claudine de Lyon, qui est l'histoire d'une petite fille à Lyon, qui est fille de Canu et Canu elle-même, et qui, du coup, les Canus, pour les personnes qui connaissent pas, c'est les ouvriers de la soie, et ça se passe, du coup, c'est plutôt première moitié du 19e, et c'est aussi, les Canus sont pas mal connus pour leur grosse révolte ouvrière. Et donc voilà, il y a cette petite fille qui bosse et tout, et qui en fait, bah, c'est une histoire d'émancipation, où elle part, enfin, il y a à la fois sa condition de classe, parce qu'elle est du coup d'une famille ouvrière et ouvrière elle-même, sa condition d'enfant et sa condition de fille, puis de femme et tout ça. Et voilà, du coup, c'est une super histoire d'émancipation et qui, moi, m'avait beaucoup marquée petite pour me dire, ben, c'est hyper possible en fait d'avoir des capacités, d'évoluer, de sortir de ces conditions et qu'il n'y a pas de... Le déterminisme, il n'est pas immuable, quoi. Et après, ben, moi, j'avais beaucoup regardé aussi Cat Size. Et que je trouve que c'est assez chouette d'avoir vu ce dessin animé-là dans mon enfance, parce que, du coup, c'était trois sœurs qui allaient voler plein de trucs et tout, et qui... arrivait trop bien échapper à la police et qui sautait dans tous les sens et qui était vraiment... ouais, voilà. Du coup, ça faisait que dans la cour d'école, on pouvait trop jouer à Cat Size et être du coup dans une dimension physique et d'appropriation aussi de tout l'environnement qu'il y a autour de nous. Qui, ben, du coup, quand on est petite fille, là, et ben, c'est pas un truc qui est gagné du départ. Et du coup, moi, je crois que ça m'a bien aidée là-dedans. Et après, j'avais aussi un autre souvenir d'un autre personnage qui m'avait marqué, qui était dans la version un peu manga qui passait sur TF1 là, des Trois Mousquetaires. Et oui. Et qu'en fait, dedans, il y a D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis. Et dans ce dessin animé-là, en fait, Aramis, on découvrait de temps en temps que en fait c'était une fille et qui était travestie en homme et que tout le reste du temps c'était secret et qu'elle avait vraiment une position d'homme pendant tout le dessin animé, mais qu'à des moments on la voyait un peu toute nue ou des trucs comme ça, et c'était que par ça qu'on savait que ben c'était pas un mec biologiquement en tout cas, et voilà, et du coup c'était un peu sur ces trucs là, ces héroïnes là qui m'avaient marqué dans des trucs d'émancipation pas mal, et de m'ouvrir un peu des imaginaires et des possibles.
D'accord. Et du coup, Élise, ouais, toi t'avais des héroïnes aussi auxquelles t'avais pensé?
Si on continue le cheminement, moi c'est plutôt dans l'adolescence j'ai pensé à deux héroïnes. Alors une, c'est d'une série télé que vous avez peut-être regardée, c'est Dark Angel. Voilà, c'était la troisième série de la trilogie du samedi soir, diffusée au début des années 2000. Et alors, elle était diffusée en dernier parce qu'elle était justement un peu plus dark. Et alors, je raconte l'histoire en deux mots. Ça se passe dans le futur proche, en 2019, aux États-Unis. Donc, il y a une femme, Max Guevara. C'est elle-même qui se choisit son nom. Donc le jour, elle est coursière pour une entreprise, et la nuit, elle est cambrioleuse. On a encore une histoire de double et de secret. Et effectivement, elle a un terrible secret. En fait, elle s'est échappée d'un complexe militaire 10 ans plus tôt qui visait à produire des super soldats. Donc, elle est modifiée génétiquement. Elle a un code-barre dans la nuque. Je pense que ça a inspiré beaucoup de gens pour se tatouer, d'ailleurs, ce code-barre. Et elle essaye. En fait, elle a des super pouvoirs, mais finalement... En fait, son but, ça va pas être de sauver la planète. Au départ, son but, c'est surtout de sortir de ce déterminisme qu'on lui a imposé et d'essayer d'avoir une vie un peu normale, entre guillemets. Et voilà, je vous lis juste une petite phrase en anglais, c'était le générique. Ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. They designed her to be the perfect soldier, a human weapon. Then she escaped. In a future not so far from now, in a broken world, she is hunted by her past. She cannot run, she must fight to discover her destiny.
Est-ce que tu peux nous traduire ?
Que bon, il, on ne sait pas trop qui c'est, ils l'ont designé pour être le soldat parfait, une arme humaine, et finalement elle s'échappe dans un futur pas si lointain du nôtre, hein, donc ça se passe en 2029. Voilà un monde brisé et par contre elle est hantée par son passé, elle ne peut pas courir ou s'échapper, elle doit combattre pour découvrir sa destinée. Voilà, mais c'est l'idée que justement c'est justement une héroïne qui essaye d'échapper à son destin de super-héroïne justement et qui essaye de rentrer dans la normalité. Donc je l'ai trouvée intéressante pour ça. Et ma deuxième héroïne, ça c'est mon ultime héroïne, c'est Ellen Ripley dans Alien. Jouée par Sigourney Weaver, donc elle c'est l'héroïne, vraiment c'est la survivante, c'est le fil conducteur de toutes les histoires d'Alien. Elle a pas de super pouvoir, mais elle est résistante physiquement et psychologiquement, et c'est vraiment son atout. Et elle est intéressante parce qu'elle a le côté scientifique, c'est une scientifique dans l'histoire, et en même temps elle a un côté super dans les sens, dans les cinq sens. C'est vraiment, c'est physique, c'est sensuel. On voit son corps suant, gluant. Elle porte l'alien en elle. Peut-être même que l'alien, c'est elle, finalement. C'est voilà, un personnage qui va au-delà du féminin et du masculin. Et voilà, j'aime ce personnage qui, c'est un peu le chaud dans l'univers glacé de ce vaisseau du futur. Et elle se rebelle, c'est aussi une rebelle, hein, c'est la première action dans le film, c'est qu'elle se rebelle contre les décisions des officiers qui représentent le pouvoir patriarcal. Et après, elle se rebelle aussi contre une sorte d'entité supérieure, c'est l'ordinateur gérant du vaisseau spatial qui est appelé dans le film Mère. Mais M-E-R-E, voilà. Donc il y a plein de trucs intéressants à réfléchir là-dessus. Et juste pour finir ma petite présentation, je voulais vous lire une phrase de Donna Haraway, pardon pour la prononciation. Donc c'est une théoricienne qu'on voit d'ailleurs dans le film No Gravity, on va peut-être en parler tout à l'heure, qui a dit « Si je suis une cyborg et non plus une déesse, cela sonnera-t-il alors la fin de la société patriarcale ?»
Et bah, moi en fait j'ai quand même juste envie d'enchaîner un peu parce que là on parlait du côté les héroïnes qui nous ont inspirées. Moi j'ai l'impression, voilà, évidemment Dark Angel bien sûr. Dans la série dans la trilogie du samedi soir, si je me trompe pas, il y avait quand même aussi Buffy, Charmed et moi. Moi et j'ai quand même, mais en fait c'est très drôle parce que quand je me souviens des séries que je regardais quand j'étais gamine ou début d'ado, enfin je sais pas, 11, 12, 13, bon jusqu'à 14, 15, 16, 20 ans, mais jusqu'à aujourd'hui disons-le clairement, mais que concrètement je me souviens vraiment de ces séries là et en fait c'était quand même des séries que avec des personnages féminins hyper forts et moi je sais, enfin je pense que toutes ces meufs déjà elles savent se battre. Et elles ont vraiment de la force physique, elles se font pas du tout malmener, elles ont peur de rien. Et moi, je pense que toutes ces personnages, elles m'ont inspiré un truc de ouf, en fait, dans ma vie, de me dire que moi aussi, j'avais envie de me battre, que moi aussi, j'avais envie d'être forte physiquement, de pouvoir me défendre. Et puis aussi, elles sont hyper souvent fortes psychologiquement, même. Enfin, donc voilà, moi, je trouvais que c'était hyper intéressant. Et je voulais, du coup, juste en profiter, parce que je me suis rendu compte, à l'instant, en fait, que toutes ces séries passent le Bechdel test. Et donc, du coup, peut-être ça sera intéressant d'expliquer ce que c'est que le Bechdel test. Le Bechdel test, en fait, c'est un test pour définir si une série, mais en fait un film, pourrait être est vraiment hyper macho ou pas. Enfin, c'est un peu, voilà, c'est un test. Et du coup, si je ne me trompe pas, ce test, c'est de savoir est-ce qu'il y a dans le film, la série, deux personnages féminins qui ont des prénoms, qui parlent ensemble et qui parlent ensemble d'autre chose que de mecs. Ça peut être très intéressant de revoir plein de films ou plein de séries que vous avez vues dans votre vie et vous demander « Ah oui, effectivement, ça ne le passe pas. Ah oui, d'accord. Voilà, je trouve que c'est assez intéressant pour faire un peu une sélection entre le genre de film ou de série. Et comme on parle de série, peut-être que...
Du coup, on pourrait parler peut-être d'Orphan Black, qui a un peu sujet de passion au sein du groupe, ici. Oui.
C'est ça, c'est que... Bonsoir. On a eu le temps, en fait, pendant ce week-end Radio Rageuse, de discuter entre toutes, et notamment de se rencontrer aussi à travers des discussions sur cette série. Du coup, bah voilà, Charlotte.
On peut peut-être juste écouter le générique avant.
Bien sûr.
Alors du coup, la série Orphan Black, donc ça veut dire sans origine, vous allez sûrement comprendre après pour ceux qui n'ont jamais regardé pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est une série télé canadienne et qui est diffusée depuis 2013 au Canada et novembre 2013 en France. Donc on va revenir un petit peu sur le synopsis.
Alors le synopsis, mais ne prenez pas peur parce que je vais dire le mot clone dedans. Et par exemple, moi je sais que j'aurais pas du tout regardé une série si je savais qu'il y avait des clones. Donc c'est hyper accessible.
Ça vient d'un gros mot. Oh.
L'héroïne, elle s'appelle Sarah Manning. Elle revient après 10 ans à Toronto. Après 10 ans, après 10 mois. Mais ça a dû être très long pour elle. Et en fait, ça c'est tout le début de la série qui donne hyper envie de la regarder. C'est qu'elle se retrouve dans une gare. Et dans cette gare, elle est témoin du suicide d'une femme. Sauf que en fait, la femme, juste avant de se suicider, elle se retourne vers elle. Et là, elle se rend compte qu'elle a exactement le même visage qu'elle, mais trait pour trait. Et en fait, du coup, la femme, elle a posé toutes ses affaires comme ça. Elle les a pliées juste sur le quai de la gare avant de se jeter sous le train. Et du coup, elle voit ça. Elle est complètement à la rue. Elle a rien. La meuf, elle avait l'air d'avoir de la thune, vu comment elle était habillée, vu son sac à main, tout ça. Et du coup, ben, en fait, elle décide de prendre son identité. Et donc, en fait, elle va se rendre compte qu'elle va tomber complètement dans un univers hyper étrange, que en fait, toutes les deux, elles sont clones, mais qu'en fait, elles sont pas que deux et qu'elles sont plein. Et qu'il y a un gars qui essaye de les tuer. Donc il essaye de les tuer une par une comme ça. En même temps, il y a une organisation qui les surveille. Enfin bon, c'est complètement le gros bordel, quoi. Mais on adore. Et pourquoi on adore ?
Alors déjà parce que l'actrice Tatiana Maslany, elle est vraiment super, parce qu'elle arrive à incarner tous les personnages et en même temps à chaque fois on a l'impression que c'est vraiment quelqu'un d'autre, où toutes les émotions elles sont vraiment différentes. Il y a notamment plein de choses qui se jouent au niveau rapport de classe entre les différents clones, et vraiment elle arrive à incarner à chaque fois tous les personnages, c'est vraiment génial. Et même, elle arrive à être dans une même pièce. Il y a trois clones et on ne se rend pas du tout compte que c'est la même actrice. Enfin, on oublie au bout d'un moment, ça s'emportait. Ça, c'est super.
Et on peut dire aussi que c'est une série qui passe haut la main le Bechdel test, hein, dont on vient de parler. Là.
Ouais. Mais parce qu'il y en a d'autres que la même clone où ça passe le test parce qu'elle se passe tout le
temps. Elle se parle elle-même. En vrai, il y en a d'autres. Et aussi, ce qu'on adore dans cette série, c'est le contexte. On a pas mal parlé de ça aussi. En fait, il n'y a pas ce truc de série américaine qui peut être relou, là, avec la famille hyper présente, les valeurs hyper présentes. En fait, il y a des gwynes, il y a des trans, il y a des PD, il y a des gens qui sont usagers, usagères de drogue, là, enfin, des gens qui consomment, quoi. En fait, les gens ils choisissent un peu leur famille dans cette série. Les meufs elles sont vraiment hyper soudées dans un truc de sororité super forte. Et voilà.
Ouais, puis qu'il n'y a pas aussi ce truc de bien et de mal aussi. Il n'y a jamais de dualité. En fait, quand on croit qu'il y a un personnage qui a l'air sympa, tout ça, mais en fait, il va y avoir un retournement et tout d'un coup, on va le détester et on va plus du tout avoir envie de s'identifier. Du coup, ça, c'est pas mal aussi. On passe par plein d'émotions hyper différentes.
Du coup, du suspense, des intrigues, des petites palpitations, tout ça du dimanche soir, parce que... Bon, et aussi, du coup, c'est des meufs qui se battent pour reprendre le pouvoir dans leur vie.
Ouais, parce qu'elles ont plein d'ennemis quand même. Donc il y a à la fois les labos un peu pharmaceutiques, enfin en tout cas de recherche médicale. Il y a un peu l'État, mais ça on ne comprend qu'à la saison 3. Alors bon, voilà. Il y a un peu aussi les sectes religieuses. Enfin, il y a quand même plein de pouvoirs. Et en fait, elles arrivent à s'en sortir par des jeux de solidarité. Et ça, il y a quand même un petit côté un peu hormone qui est vraiment chouette.
Et du coup, ça fait que ça questionne aussi le rapport au progrès, aux avancées technologiques, avec ces histoires de clonage. Là. Voilà. Est-ce que quelqu'une a vu cette série, a envie d'en dire un truc ?
Moi, je trouve que vous en avez très bien parlé, mais vraiment, j'encourage à la voir. C'est vraiment la série la plus formidable que j'ai vue. Et le nombre d'émotions par lesquelles on passe dans chaque épisode, à la fin de chaque épisode, on s'accroche au canapé tellement on n'en peut plus et qu'on veut voir la suite. Enfin, on transpire, on pleure, on rit, c'est fabuleux. Il faut vraiment la regarder. Du coup, peut-être qu'on va peut-être enchaîner. Et est-ce que... Peut-être, Laurie, tu pourrais nous parler d'un film que tu as vu ?
De Mad Max, par exemple.
Par exemple ? Oh, quelle bonne idée !
Le dernier, Mad Max, Fury Road, oui. Eh bien, oui, je peux vous en parler. Alors moi, je vous dis tout de suite que je pense que je risque de spoiler pas mal de choses. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous voulez garder le suspense du film « Bouchez-vous les oreilles ». Du coup, alors l'histoire, moi je vais parler de synopsis, donc l'histoire de ce dernier Mad Max. Donc j'ai pas vu aucun autre Mad Max. Je suis allée le voir uniquement parce qu'on m'a dit qu'il y avait des personnages féminins avec la force et qui étaient assez. Enfin, qui étaient. Comment. Qui prenaient. Qui avaient de l'espace. Qui
prenaient leur place.
Qui prenaient leur place, voilà. Et tout ça, et du coup, voilà, moi, notamment l'héroïne avait un gros camion, donc je suis allée voir aussi pour ça. Et qu'il y avait aussi des meufs à moto. Enfin, bon, bref, tout, voilà. Mais je vous dis un peu tout le film, donc bouchez-vous. Alors, donc, l'histoire, le synopsis, c'est que, donc, il y a Mad Max qui est l'héros des trois précédents, donc, qui cherche à s'échapper de la citadelle où il est maintenu en tant que globular. Donc, globular, c'est les réserves de sang des gens qui l'exploitent et tout. Enfin. Voilà, il est prisonnier, quoi. Et donc, lui, par contre, il pense que la meilleure solution pour survivre, c'est d'être seul. Voilà. Mais sur sa route, il croise au moment de sa libération, enfin, il n'est pas encore vraiment libéré, mais il va se libérer, il croise l'impératrice Furiosa, qui, elle, était, du coup, l'impératrice de la citadelle, et qui était chargée d'aller chercher des munitions et du pétrole dans les villes voisines. Mais elle en profite pour s'enfuir avec les cinq femmes d'Immortam Joe, qui est le grand patron et le grand méchant. Et donc voilà. Et donc le but en fait du tout le film, qui est une grande course poursuite dans le désert. Non, c'est pas australien. Du coup, c'est namibien parce que il y a eu des inondations, donc ils ont finalement décidé de tourner dans le désert de Namibie, ce qui a causé aussi des gros dégâts écologiques. Mais bon, on en parlera plus tard. Et donc leur but, c'est de s'échapper parce que donc les cinq femmes, de s'échapper de leur statut de mère pondeuse et de rejoindre le Vanalla, qui est une espèce de terre verte, un endroit idyllique où il y aurait de l'eau et qui est géré par des femmes. Qu'on rencontre un peu plus tard dans le film. Et qu'en fait, moi, de ce que je comprends du film, c'est qu'elles ont certainement été kidnappées. Enfin, en tout cas, pour Furiosa, elle a certainement été kidnappée pour servir à Immortam Joe et tout ça. Voilà.
Et du coup, tu as trouvé que c'était un... Enfin, moi, j'ai pas mal de copines qui l'ont vu, qui me disaient qu'ils sortaient hyper contentes d'avoir vu ce film et de me dire... Ah bah c'est un film un peu féministe, ouais. T'en as pensé quoi toi ?
Mais du coup voilà, c'est ça, moi aussi que je suis allée le voir pour ça, parce qu'il y avait toute cette polémique autour de... D'ailleurs j'y suis allée en entendant d'abord la polémique et après je suis allée voir. qu'il y avait vraiment tous les articles autour de ce film, que ce soit Première, Incorruptible, Télérama. Bon, vous voyez le magazine de musique là, Télérama. Tout ça, il disait, voilà, super, film féministe, etc. Il y avait aussi ça, il y avait aussi d'un autre côté les masculinistes. Donc les masculinistes qui sont des hommes qui se sentent attaqués, enfin je veux dire une petite définition, qui se sentent attaqués par, par l'obtention de droits que les femmes pourraient obtenir ou le pseudo-pouvoir qu'elles pourraient avoir. Je pense que c'est à peu près ça. Voilà. Et du coup, qui sont vraiment montés au créneau sur ça aussi, à dire, oh là là, une propagande féministe. Bon, alors, en sachant que ce gars qui a écrit cet article, il n'a pas vu le film, il a vu que la bande-annonce. Mais voilà. Et du coup, ben, sur ce truc de féministe, moi, personnellement, je pense que non, il n'est pas féministe. Effectivement, il y a un personnage féminin fort, qui est Furiosa, qui est vraiment très belle et qui... est vraiment voilà, forte. Après, il y a toujours Mad Max qui est là et qui reste quand même un personnage aussi hyper fort et qu'en fait, dans ce film-là, il joue plutôt en termes de complémentarité, on pourrait dire, sans truc de... Bon, il n'y a pas d'histoire d'amour entre eux. Hein. Mais en tout cas, dans des trucs de... le but à atteindre, il me semble que c'est un peu ça et qu'au final, après, ils arrivent à se retrouver, mais qu'en fait, au fil du film, il y a plein d'événements, enfin, plein de scènes et plein d'événements qui montrent qu'en fait... Et il se complète, mais aussi quand même les rapports de pouvoir en fait, ils restent quand même assez présents. C'est-à-dire que Max, c'est lui qui amènera quasiment toutes les idées du film, enfin toutes les idées du film, qui amènera toutes les idées de
l'intrigue pour faire avancer le scénario. Ouais.
Et puis peut-être, si j'ai bien compris ce que tu veux dire, il y a le côté loup et louve solitaire de ces deux héros, où c'est qu'on les admire parce qu'ils sont forts, ils sont capables et tout ça, mais à aucun moment c'est relié à des trucs plus collectifs ou plus de solidarité. Du coup, c'est vrai que ça reste des héros sur lesquels on peut fantasmer, notamment Furiosa. Enfin, pour les meufs, c'est un... Mais loin de... Loin des marges de solidarité ou de collectif, finalement ils repartent seuls. Oh. Et peut-être il ouais, y a ça qui fait un petit peu obstacle au côté féministe
Bah, lui,
dont la critique parlait.
Ouais. Mais lui il repart seul parce que Furiosa par exemple, elle part avec. Elle emmène carrément 5 meufs avec elle dans son camion. Que quand même, voilà, elle se dit ah, je vais quand même les sortir des mains de Immortan Joe. Du coup, il y a ce truc d'empathie ou de. Non, c'est pas l'empathie. Solidarité. Ouais, solidarité, voilà. Très bien. Et du coup...
Et c'est vrai que sur le côté féministe, on peut avoir une lecture un peu féministe, mais super essentialiste en tout cas de ce Mad Max, puisque les femmes et leur rôle, hormis Furiosa, voilà, qui est la loup solitaire, qui conduit des camions, qui est un peu la sauveuse de la situation... le rôle des femmes, il est vraiment centré sur l'eau, la vie, la capacité à procréer, le côté qui est chouette, hein, mais
hyper cliché quoi.
Assez cliché, moi j'ai trouvé.
La première scène où on les voit.
Les graines, oh là donc là, c'est là, elle qui possède une collection de graines pour refaire pousser des arbres, etc. Donc oui, c'est quand c'est même ça, vachement lié de manière symbolique avec à tout ce qui est la maternité, ouais. La vie. C'est toutes des personnages super éthérés, alors elles sont superbes, c'est toutes des mannequins.
C'est ça quoi, les corps sont vraiment
elles sont vêtues
quoi.
De blanc, ouais. Dans le désert, elles n'ont jamais une tache. Elles sont souvent mouillées, avec de grands linges blancs, elles sont magnifiques, mais c'est vrai que voilà, ça peut se rapprocher d'une lecture un petit peu essentialiste du féminisme, à savoir les femmes comme les êtres dédiés à la procréation, la vie, la paix. Voilà, c'est le côté un peu cliché que j'ai trouvé dans ce film.
Et ouais, par contre, moi, ce qui est Furiosa aussi, ce qui était intéressant dans le film, et que c'était aussi le fait qu'elle ait une prothèse au bras gauche. Qui, moi, j'ai trouvé ça aussi assez intéressant qu'en fait, une personne handicapée puisse être représentée pas dans une position de faiblesse. Et du coup, voilà, quoi, c'est quand même un personnage, voilà, et que du coup, ça, j'ai trouvé que c'était un truc hyper intéressant, en tout cas, sur ce film. Et après, pour par rapport aux masculinistes, oui, voilà, c'est aussi ça, c'est que juste, vous voulez, il y a eu Eve Ensler qui est venue sur le tournage pour aider les actrices, les cinq femmes de Immortan Joe à interpréter leur rôle, parce que donc Eve Ensler, qui a écrit les monologues du vagin, ah, peut-être tu veux nous la présenter ?
Non, j'avais envie que tu nous dises qui c'était, justement.
D'accord. Ok. Ben, Eve Ensler, qui a écrit les monologues du vagin et qui se dit féministe et qui a aussi beaucoup travaillé avec les femmes victimes de violences sexuelles en temps de guerre, donc dans différents endroits. Et du coup, elle était sur le tournage pour aider les actrices à interpréter leur rôle, voilà, de séquestrer. Et du coup, c'est aussi cette réaction, elle est venue aussi de là, de la part des masculinistes. Bon, après, c'est pas, je les justifie en rien. C'est juste pour dire qu'il y avait aussi ce facteur-là qui fait que peut-être ça a alimenté la propagande féministe, entre guillemets, que vous ne voyez pas vu que vous n'êtes pas au studio.
Okay. Merci. Et peut-être que du coup, on pourrait enchaîner. On va être obligé de faire un peu vite parce que malheureusement, bon, enfin, heureusement, on s'amuse tellement que le temps passe vite. Mais du coup, est-ce que Marina, tu pourrais nous parler un petit peu de Born in Flames, quand même, qui est un film par rapport aux rencontres radio-rageuses, un peu.
Un peu en lien. Est-ce que mon micro marche ? Oui. Ok, alors Born in Flames, effectivement, c'est un film qu'on vous conseille aussi. Alors là, j'ai l'impression qu'on vous donne de quoi regarder et après de quoi lire pendant pas mal de temps. C'est un film de science-fiction féministe qui est sorti en 1983, qui a été réalisé par Lizzie Borden. C'est pas un film qui est facile à trouver, mais il est trouvable. Je sais pas comment, mais en tout cas, moi je l'ai vu. Grâce à mes camarades de Radio Rageuse, il faut bien que je le dise. Et c'est un film qui explore le racisme, le sexisme et l'hétérosexisme dans une démocratie, dans un futur pas si lointain non plus, j'ai l'impression, c'est presque maintenant, non ?
Futur passé, presque.
Futur passé ? Oui, bah, vu que c'est 83, bon, bref. Du rétrofuturisme. Bref, en tout cas, c'est une démocratie socialiste américaine alternative. On y voit, j'ai envie de faire des listes, hein, des groupes féministes, des bandes de féministes à vélo qui viennent aider les femmes qui se font agresser dans la rue. On y voit des radios pirates, des activistes voyageuses, une armée de femmes. Enfin, tout ça, je crois que je suis incapable de raconter l'histoire vraiment, mais... Mais voilà, c'est vrai que du coup, c'est assez idéal pour Radio Rageuse, parce qu'il y a à la fois des féministes, de la radio pirate, de la science-fiction, pour le coup, et de l'anticipation politique. Et aussi un film qui montre... Comment ?
De la solidarité entre meufs, beaucoup. Et contre l'État aussi.
Voilà, de l'autodéfense.
Radio, de l'autodéfense, de l'anarchisme, radio. De la radio, je l'ai dit. Et donc...
La radio, on peut le redire.
Pour tout ça, radio, science-fiction, féminisme, on aime ce film, on vous le conseille. Born in Flames, un film de 1983 réalisé par Lizzie Borden. Ah, j'ai été rapide. Hein.
Ouais, ah, grave. Super.
Merci de nous avoir présenté ce classique.
Et du coup, peut-être on...
On pourrait écouter un
peut-être
peu de musique.
Peut-être qu'on pourrait écouter un petit peu de musique et cette musique nous sera présentée après. Bonne écoute.
Nadie aquí es ilegal. Somos seres mutantes dispuestos a actuar. Nadie aquí es normal. Cada cuerpo es singular. Me gusta ser. Vuelve a la
para despertar un vocabulario por inventar. El placer se comparte para recrear. Nadie aquí es neutral. Somos disidentes compuestas de azar. ¿Quién se sumará a excomulgar la universalidad? Reflexiones situadas por pavimentar modos de alianza, por multiplicar. El placer se practica para endulzar.
Et donc la chanson qu'on a écoutée, c'est une chanson qui s'appelle Nadie aquí es ilegal, ça veut dire personne ici est illégal. Et c'est une chanson de Invasorix, qui est un groupe de féministes artistes mexicaines et aussi d'autres pays en fait. Elles se sont rencontrées au Mexique, mais du coup elles... Et voilà, elles font de la musique ensemble et c'est un peu une idée de, d'utopie, d'identité collective, politique. Voilà, ça, elle raconte un peu ça, cette chanson, d'être mutant, d'être qui agissent, d'être qui partagent le plaisir et la lutte. Et voilà, et du coup, c'est... Voilà, je vous conseille ce groupe génial qui a écrit aussi d'autres chansons trop bien.
Alors, on est toujours sur Radio Zinzine 100.7 et vous êtes pendant le direct de Radio Rageuse qui arrive bientôt à sa première heure. Alors, maintenant, ça va être la chronique de livres. Donc, une des choses qui se passe sur le week-end de Radio Rageuse, c'est qu'on a ramené des livres parce que c'est aussi de là que viennent certaines de nos sources et on avait envie de vous chroniquer certains ouvrages. Et notamment, il y en a un, je pense que vous allez reconnaître la voix, parce que c'est une personne qui régulièrement est sur Radio Zinzine et qui va nous parler d'un auteur que je pense on est pas mal de personnes à avoir lu, qui s'appelle Ursula Le Guin.
Eh bien, bonjour. Donc, je vais vous parler d'une auteuse de science-fiction que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ursula Le Guin, qui écrit depuis très 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 longtemps. Je crois qu'elle est encore vivante d'ailleurs, j'espère. Et voilà, et donc je continue à trouver ses bouquins et je vais vous en parler. Et pourquoi je l'aime beaucoup ? Eh bien parce qu'en fait j'ai toujours un petit faible pour la science-fiction, mais j'avais toujours un petit, le contraire de pas faible, pour la science-fiction claffie de technologie, d'hommes musclés, plein de poils et qui, si possible, allait porter la civilisation dans des mondes où qui seraient très bien passés d'eux. Et en fait, ce que je trouve dans Ursula Le Guin, c'est pas du tout ça. En fait, elle est. Je vais citer une petite phrase d'elle parce que je trouve qu'elle résume assez bien le fond de ses bouquins et puis pourquoi je les aime. Elle dit dans la préface d'un de ses bouquins qui s'appelle L'anniversaire du monde, j'aime réfléchir à des relations sociales complexes qui engendrent et frustrent à la fois des relations hautement chargées en émotions. Et ces relations hautement chargées en émotions, elles adoptent à peu près toutes les configurations possibles et imaginables. En tout cas, c'est clair et net que pour elle, sexe et genre, c'est pas la même chose. Et qu'on peut avoir autant de combinaisons qu'on peut imaginer, surtout en science-fiction, on peut se lâcher. Donc ça, c'est assez drôle et souvent très plaisant et très enrichissant au niveau de l'imagination. Et en même temps, elle n'est pas du tout complaisante, et ça, je trouve ça très chouette aussi. C'est pas, elle n'est pas, elle prend pas un modèle qui serait une contre-norme, mais elle en fait un idéal. À chaque fois, en fait, elle parle toujours des problématiques que peuvent soulever tel ou type de relation. Et aussi, elle met toujours en scène des gens qui vont pas forcément accepter les normes telles qu'elles sont imposées dans leur type de société et essayer de les faire un peu évoluer aux entournures. Et voilà, donc moi, je trouve ça très... C'est pas seulement de la fiction, quoi. Moi, je trouve que même dans la vie quotidienne, ça peut donner des idées ou en tout cas ouvrir une imagination qui fait que on peut réfléchir à sa vie quotidienne et à ses relations autrement. Et bon, beaucoup de ses livres sont basés effectivement sur ces histoires. Il y a beaucoup de sexualité dans ses bouquins, voilà, on va le dire, mais c'est jamais grossier ou vulgaire. Mais c'est aussi toujours politique, et ça, je trouve ça une dimension vraiment passionnante et pareil, c'est pas complaisant. Bon, un de mes livres préférés dans ce domaine-là, c'est Les Dépossédés, évidemment, qui met en scène en gros, il y a une planète sur laquelle il y a une révolution, et puis bon, les autorités pour avoir la paix en gros envoient toutes les anarchistes sur la Lune, qui est à peu près habitable mais tout juste. Donc ça évite un bain de sang en quelque sorte, mais et ce serait presque un win-win si ce n'est que c'est vraiment une planète très... Enfin, cette lune en question est une planète très pauvre, et donc il va falloir vraiment que les personnes se débrouillent dans des situations assez difficiles, et donc s'imposent des normes pour pouvoir survivre qui sont en contradiction avec leurs convictions anarchistes. Et toutes ces problématiques-là, je trouve que ça me fait tellement penser à ma vie en collectif, en tout cas, où, bon voilà, moi je vis dans un collectif depuis des années, et effectivement, on est toujours pris au un peu le cul entre deux chaises, entre ses convictions et puis la dure réalité, et voilà, et on essaye de faire pour le mieux, mais c'est pas toujours possible, mais en tout cas, on essaye, et ça, ce livre, il m'a complètement parlé pour ça, quoi. Et mon autre préféré, c'est La main gauche de la nuit, qui est aussi un roman. Elle a écrit beaucoup de nouvelles, mais où, pareil, on revient à ce que je disais au début, où on est sur une planète où, alors, il y a dans tous ces, enfin, en tout cas, dans un de ces univers, elle en a deux, en gros, c'est les écumènes, et de l'autre côté, c'est le terre-mère, donc dans cette famille des écumènes, en fait, on a une civilisation très ancienne, issue d'une planète qui avait à voir avec la Terre à un moment, et qui en gros se balade dans l'univers et rencontre différentes populations dans différentes planètes et essaye de les aider, mais sans trop intervenir, mais quand même un petit peu. Et donc là, donc on a un de ces écumènes qui débarque sur une planète sur laquelle il fait très très froid, mais à un moment a réalisé qu'en fait, la population n'est pas... Il n'y a pas d'hommes ou de femmes, quoi. Ce sont des androgynes, et il va mettre encore plus longtemps à comprendre comment ça se passe, du coup, pour reproduire la population. Dit comme ça, ça paraît assez pas si intéressant que ça, mais c'est complètement passionnant, parce que justement, le fait... Elle part du principe... En fait, on a l'impression que toujours dans ces bouquins, elle se dit « qu'est-ce qui se passerait si ?» Alors, qu'est-ce qui se passerait si, bah, justement, il n'y avait pas des hommes et des femmes, mais il y avait des androgynes qui, à des moments, deviennent hommes ou femmes, mais pas toujours... c'est la même personne va pouvoir changer. Qu'est-ce que ça provoquerait en termes de civilisation, en termes de culture, en termes de tout ce qu'on veut, bah, de sexualité, évidemment. Et c'est complètement fascinant de se dire, bah ouais, mais c'est pas parce qu'on a des normes, nous, que voilà, que c'est obligatoire, et qu'en tout cas, ça encore une fois, ça fait complètement chambouler la tête, quoi.
Alors, merci Joël, si tu nous écoutes, d'avoir préparé cette chronique. Ça fait vraiment plaisir de parler de Ursula Le Guin, parce que c'est une auteure méconnue. Moi, c'est la première auteure de SF que j'ai rencontrée, et c'est notamment en faisant une bibliothèque féministe, c'est-à-dire à un moment en privilégiant des ouvrages écrits par des meufs, que j'ai découvert ça, parce que sinon j'aurais juste été au courant de, par exemple, Philippe K. Dick ou ce genre de choses. Donc je voulais le redire, que c'est aussi grâce à des sélections de camarades qu'on peut découvrir en fait toute cette culture vraiment très riche, et notamment en termes d'expérimentation sur les rapports de genre, les rapports à la famille, enfin tout ce qui était soulevé dans cette chronique. Et juste pour évoquer, on n'aura pas le temps de l'écouter, mais il y a un autre texte qu'on avait prévu, qui est un passage de Poe de Dorothy Allison, qu'on n'aura pas le temps d'écouter, mais que vous pouvez trouver sur notre site www.radiorageuse.net dans la fameuse émission de Voyelles sur la science-fiction, qui est une personne qui décrit comment la science-fiction est érotique pour elle. Voilà.
Et pour enchaîner sans transition, Lucie.
Oui, alors on a tout à l'heure dans ta chronique d'Alien, du coup, tu as conclu sur une citation d'Haraway qui s'interrogeait un peu sur est-ce que si elle devient cyborg, ça pourrait être la fin du patriarcat. Quand on entre dans ce prisme de la science-fiction, Et par exemple, qu'on tente l'anticipation, il y a cette forme qui apparaît, ce personnage de l'être cyborg. Et du coup, vous en avez peut-être entendu parler ou même vous avez lu le manifeste cyborg. Bon, en tout cas, les prochaines minutes vont y être consacrées. On va essayer de faire rapide. J'ai préparé cette mini-chronique vraiment très rapidement, c'est pas vraiment fini. On va voir. Mais ce texte, en fait, il date des années 80, de la fin des années 80. Et son auteur, donc, c'est Donna Haraway, qui est une universitaire états-unienne, qui est biologiste de formation et qui, après, a travaillé pas mal sur l'histoire des sciences, les positionnements. Pour un savoir féministe, scientifique et politique. Donc ce texte, le Manifeste Cyborg, en fait il s'agit d'un extrait de la pensée et de la perspective qui est fournie par Donna Haraway, mais c'est un essai qui est parmi d'autres dans un livre qui s'appelle « Des singes, des cyborgs et des femmes », qui a été rassemblé dans ce bouquin, et qui traite de la réinvention de la nature. Donc en fait, elle-même... Donna Haraway, elle dit que quelque part ce livre, il s'adresse aussi à toutes celles et ceux qui veulent et espèrent vivre un jour dans un monde moins saturé par les dominations exercées au nom de la race, du colonialisme, du genre et de la sexualité. Elle dit que en fait à la suite de l'écriture, à la fin de l'écriture de cette série d'essais donc sur les sciences, sur la construction de ce savoir scientifique qui cloisonne en fait, qui construit des catégories, qui limite finalement et qui reproduit tous les clivages donc nature, culture, qui renforce et qui justifie des dominations biologiquement. Donc elle dit qu'à la fin de l'écriture de cette série d'essais, elle s'est transformée en féministe cyborg. Et que pour elle, cette transformation en féministe cyborg, c'était pour s'efforcer de garder vivant ses choix politiques et ses autres engagements critiques en une époque de grand désenchantement qui est le dernier quart du XXe siècle. Donc les cyborgs, pour elle, alors... Je vais vous dire un peu ce que c'est. Donc, un cyborg, ça serait un organisme cybernétique, un hybride de machine et d'organisme, une créature de la réalité sociale et une créature de fiction. Donc voilà, elle parle de la réalité sociale. Donc qu'est-ce que c'est la réalité sociale ? C'est le vécu des relations sociales. C'est notre construction politique la plus importante. C'est une fiction. Une fiction qui change le monde. Et les mouvements des femmes internationaux ont autant construit l'expérience des femmes que révéler ou découvrir cet objet collectif crucial. Donc, elle dit que, affaire de fiction et d'expérience vécue, le cyborg change l'expérience des femmes prise en compte en tant que telle à la fin du XXe siècle. Il s'agit là d'une lutte vitale et mortelle, sachant toutefois que la frontière qui sépare la science-fiction de la réalité sociale n'est qu'illusion d'optique. Du coup... Donc voilà, pour elle, on est toutes des cyborgs. Le personnage du cyborg définit notre politique. Et qu'en fait, ce personnage-là, c'est pas l'idée de créer un surhumain, une surhumaine. C'est, euh, Elle dit que son texte, le Manifeste Cyborg, il prend fait et cause pour le plaisir né du brouillage des frontières. Donc les frontières entre la nature et la culture, entre l'être organique et la machine, et puis entre les humains et les animaux. Je pense qu'il faut que je fasse très très vite, c'est ça l'histoire. Il faut que je clone. Bon, alors ça va être beaucoup plus vite, mais donc ce truc-là, c'est pour le plaisir, donc né du brouillage des frontières, et aussi la responsabilité de la construction. Donc il y a vraiment une nécessité pour les féministes de penser le scientifique, le technologique, et donc cette pensée-là, elle peut être faite à travers le personnage du cyborg. Bon, c'est très 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 résumé ce que je vous dis. Bon,
mais il faudrait faire une émission entière, même des cycles d'émissions.
Je pensais faire juste un petit raccourci, mais bon, éviter quand même. Bon, cela dit, tout ça, c'est aussi une manière de prendre du pouvoir, et de réussir à employer ses savoirs donc scientifiques et technologiques. Et du coup.
Comment finir sans être trop frustrée?
Ouais. Et ben je pourrais quand même finir sur les dernières lignes du Manifeste Cyborg, qui dit que l'imagerie cyborg est un rêve non d'une langue commune, donc parce que ça remet en cause justement l'universel, mais d'une hétéroglossie puissante et infidèle. Une façon d'imaginer un don féministe pour des langues inconnues qui distillerait la peur dans les circuits des super sauveurs de la nouvelle droite, donc eux ils auraient super peur des féministes. Elle implique tout à la fois de construire et de détruire les machines, les identités, les catégories, les relations, les histoires de l'espace intersidéral. Pour moi, et même si ces deux figures sont liées l'une à l'autre dans la danse en spirale, j'aime mieux être cyborg que déesse. Voilà, et bon, je suis pas sûre que ça a été très très clair, mais bon.
Merci.
Et du coup, comme on voulait parler de nos héroïnes réelles, mais qu'on n'a plus de temps, on s'est dit que comme on va raconter un peu dans l'heure suivante les rencontres radiourageuses, ce qui s'y passe, et on va parler des héroïnes réelles qu'on a rencontrées dans les films qu'on a vus hier à la projection. Voilà, du coup, restez à l'antenne et on va continuer.
Et du coup, est-ce que tu peux conclure en redisant où est-ce qu'on est en fait ?
Alors, nous sommes sur la colline de Zinzine pour le direct de Radio Rageuse. Et nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Merci. Alors, nous sommes ensemble jusqu'à minuit et nous avions prévu de pouvoir communiquer avec nos camarades qui sont au Magnan, au village des Magnans, et on va pouvoir le faire. Peut-être. Alors, on communique dans des langues, justement, on invente des nouvelles langues pour communiquer avec nos techniciennes, pour se comprendre. Alors, nous allons passer de la musique, et peut-être qu'après la musique, nous pourrons être en lien avec nos camarades qui sont au village des Magnans, et que nous saluons par les ondes, et que nous pensons fort à elles. Et si jamais ça ne marche pas, eh bien, nous reviendrons, et nous verrons bien. Voilà. Alors, on passe de la musique.
Thank you. Soro,